Je pense pas qu'on va faire beaucoup beaucoup de choses sur Déborah elle-même aujourd'hui, parce que vous savez que j'ai la manie de toujours revoir le cadre historique et chronologique et géographique, parce que même si on n'a pas toujours des dates précises, l'histoire biblique s'inscrit dans l'histoire de l'ensemble de l'humanité. Parfois, je vois avec mes élèves de cinquième, ils découvrent, ils me regardent et alors madame, c'est vrai? Bah oui, c'est de l'histoire. Parce qu'ils ont toujours pensé, je ne sais pas qui leur a donné ça, cette idée, que tout ce qui est dans la Bible, c'est comme les contes de fées. Vous savez, il était une fois dans un pays lointain. Il n'y a pas de réalité. Mais ce n'est pas vrai du tout. Je veux dire, même si on n'est absolument pas croyant, c'est ce que je leur réponds d'ailleurs régulièrement, même si on n'est absolument pas croyant, il y a toute une partie de la Bible qui est parfaitement historique. Il y a bien sûr une partie de messages spirituels, moraux, etc. Mais il y a toute une partie qui est vraiment historique et qu'on peut recouper avec l'histoire, que ce soit des Égyptiens, des Mésopotamiens, des Assyriens, etc. D'ailleurs, le truc que j'aime beaucoup, c'est quand la Bible raconte une bataille qu'elle a perdue. Le roi d'Israël a été battu. Et puis de l'autre côté, on a retrouvé une pierre avec des inscriptions très éloquentes qui racontent comment le pays d'en face qui avait gagné la bataille, raconte la bataille vue donc de l'autre côté. Ici, on dit voilà, on a perdu et les autres, hein, c'est super, on a gagné, on les a tous massacrés, etc. On peut recouper les dates, on peut recouper la même bataille, elle se trouve dans les deux textes, un dans la Bible, l'autre dans qu'on a retrouvé dans des recherches archéologiques. Donc vous voyez, il n'y a pas de doute. Alors c'est sûr que quand on remonte un petit peu loin, d'ailleurs vous le verrez les enfants sur la frise, autour avant Abraham, les dates sont beaucoup plus difficiles à trouver. Déjà autour d'Abraham, on n'est pas très très sûr, c'est disons à 100 ans près. Mais ce sont des faits qu'on peut retrouver, des lieux qu'on peut retrouver. Hein, quand la Bible raconte qu'Abraham était à Hébron ou à Sichem, c'est des lieux qu'on peut identifier encore aujourd'hui. Sauf quelques lieux, justement en travaillant sur Déborah, j'ai vu qu'il y a des lieux qu'on n'a pas retrouvés, mais c'est normal, hein, après, l'histoire que je vais vous raconter se passe quand même il y a 3000 ans, plus de 3000 ans, donc c'est clair qu'il y a il y a des villes qui ont disparu, il y a des lieux qui ont disparu, il y en a d'autres qui sont enfouis, et historiquement ça s'appelle des tells. Un tell, c'est des ruines qui se sont empilées en quelque sorte. Donc vous avez moins 3000, moins 2000, moins 1000, et puis tout ça s'est enfoui dans de la terre. Il y a quelquefois des villages qui sont perchés au-dessus, qui rendent les fouilles d'ailleurs un peu difficiles. Et les archéologues doivent travailler, et ils creusent, et plus ils creusent, évidemment, plus ils remontent loin. L'archéologie, c'est quelque chose qui me passionne. Rappelez-vous, quand on a invité Alan Millard, un archéologue du Moyen-Orient, on a appris beaucoup de choses avec lui. J'en ai profité pour lui poser plein de questions. Ceci pour dire que les histoires qu'on raconte, qui viennent de la Bible, n'ont rien de magique, c'est pas des contes de fées, ce sont des histoires. Bien sûr, la Bible, elle, insiste plus sur le message. La Bible n'est pas à cheval sur ses dates, ses chiffres, parce que ce qui compte, c'est le message. Mais n'empêche qu'on peut recouper. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être bien clair dans notre tête. Et vous pouvez faire les recoupements vous-même. Moi, j'aime bien d'ailleurs souvent faire le recoupement avec des documents non chrétiens. Comme ça, on ne peut pas être accusé de parti pris. J'aime bien l'histoire parce que beaucoup de choses semblent beaucoup plus claires quand on connaît l'arrière-plan historique des récits de la Bible. Parce qu'il faut se dire qu'on vit quand même à une époque bien différente. Avec notre histoire de Déborah, on a 3000 ans d'écart. Plus de 3000 ans. Donc, vous pensez bien qu'il y a des choses qui ont changé depuis. En plus, nous, on vit dans une culture rudement différente de celle du Moyen-Orient. Je veux dire, si on était palestinien, ou israélien, on comprendrait 10 fois mieux ce qu'on lit. Mais c'est pas le cas. En plus, on est dans un pays extrêmement éloigné des pays bibliques géographiquement. Donc, vous voyez, c'est bien de faire des petits rappels, parce que si on juge la Bible avec notre œil d'occidental français, de l'an 2012, on va faire pas mal de contresens. Par contre, les réactions et les sentiments des humains n'ont toujours pas changé. Et c'est ça qui est incroyable, c'est ce qui fait de la Bible un livre extraordinaire et applicable encore aujourd'hui, c'est que les réactions humaines, elles sont toujours pareilles. Et l'Éternel Dieu, Yahvé, comme il est nommé dans la Bible, a fait alliance avec Abraham il y a plus de 4000 ans maintenant. Et c'est toujours le même Dieu, toujours fidèle à son alliance avec les hommes. Ça, lui, il n'a pas bougé. Alors, on va travailler cette année dans le livre des juges. C'est dans ce livre qu'on trouve l'histoire de Déborah. Le livre a été rédigé avant le roi David, donc il y a plus de 3000 ans. Comment est-ce qu'on le sait? C'est tout simple. On parle de certaines villes, entre autres Jérusalem, qui étaient encore aux mains des Cananéens. Or, c'est David qui a conquis la ville, donc on peut dater. Mais c'est comme ça qu'on date les livres, hein, avec quelques petits événements qu'on remarque. Ah, donc l'auteur ne savait pas que David avait existé et avait conquis la ville. Donc on est sûr que l'auteur a écrit avant l'an 1000, avant Jésus-Christ. Donc plus de 3000 ans pour nous. Et je recite à chaque fois, je pense que vous finirez par le savoir par cœur, depuis 12 ans, je recite toujours le même verset quand je commence. C'est l'apôtre Paul qui disait, 2 Timothée 3,16, toute écriture, il parlait des saintes écritures, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Cette notion d'homme accompli. C'est-à-dire, il y a une autre traduction qui dit à la hauteur. Parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Et il y a un autre passage où Paul dit, tout cela leur est arrivé, il parlait des héros de l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir. Donc, c'est dans cet esprit qu'on va prendre l'histoire de Déborah, à titre d'exemple et pour nous avertir. Alors, j'ai coutume de faire un petit rappel chronologique, j'espère que les enfants vont me suivre. Donc les enfants, vous pouvez prendre la chronologie là pour suivre. La Bible commence avec le premier livre qui s'appelle la Genèse. Et dans la Genèse, vous avez l'histoire de la création, Adam et Ève, Caïn et Abel. Et puis, on arrive, le temps passe, à l'histoire de Noé. Et puis, parmi les descendants de Noé, beaucoup plus loin, on va trouver Abraham qui a été appelé de sortir de son pays. Donc, vous pouvez suivre sur les chronologies. Il a été appelé par Dieu à sortir de son pays, qui était un pays très évolué, Ur en Mésopotamie. Je crois que c'est l'Irak actuel, si je me trompe pas. Donc, vous voyez, c'est situé. Pour se rendre en Canaan, l'Israël actuel. Dieu lui promet une descendance nombreuse, mais ça commence mal, puisqu'il pouvait pas avoir d'enfants. Finalement, il a un fils, Isaac, avec toujours cette promesse de postérité. Lui-même, Isaac, en aura 2, Jacob et Ésaü, ça commence mal, mais Jacob, lui, en aura 12. Et parmi ces 12, il y aura ce fameux Joseph, qui a été jalousé par ses frères, et qui va être vendu comme esclave en Égypte. Et c'est lui qui, à peu près 20 ans plus tard, va faire entrer, événement très important, tout le peuple d'Israël en Égypte, toutes les tribus, les 12 tribus. Ils vont s'y trouver tellement bien qu'au lieu de rester juste le temps de la famine, ils vont y rester. Et c'est Moïse que Dieu enverra. Alors, vous avez tous vu les films, donc 400 ans plus tard, Moïse va les faire sortir. Il y a ce fameux épisode de la traversée de la mer Rouge qui tracasse beaucoup les non-chrétiens. C'est pas possible. Si les Juifs fêtent encore la Pâque aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un événement justement pas possible. Si c'était simplement 20 cm d'eau, ça aurait été difficile de noyer toute l'armée égyptienne dans 20 cm d'eau, d'ailleurs. Et ils n'en auraient pas fait un tel bazar qu'encore aujourd'hui, ils le fêteraient. Je pense que ça a dû être un événement tellement marquant qu'aujourd'hui encore, ils le fêtent avec beaucoup de conviction. Je pense pas qu'on fête quelque chose avec autant de conviction quand c'était un détail. Moïse, donc, les a fait sortir d'Égypte après toutes sortes d'interventions miraculeuses de Dieu. Et puis, alors là, on l'a fait l'année dernière, vous vous souvenez, 40 ans, ils ont tourné dans le désert parce qu'ils n'avaient pas envie de rentrer en Canaan, ils avaient peur. Ils avaient encore un peu cet esprit d'esclave, hein. Il faut dire qu'ils ont été esclaves tellement longtemps. Ils ont refusé d'aller à la conquête du pays promis et ils vont tourner longtemps dans le désert et c'est Josué, qu'on a étudié l'année dernière, qui va les faire rentrer à Canaan. Pays où coule le lait et le miel, ce qu'ils n'avaient peut-être pas réalisé quand ils rêvaient du pays promis, c'est quand Dieu dit « c'est un pays où coule le lait et le miel », ça veut dire qu'il y a du travail. Pour avoir du miel, il faut aller le chercher, ça pique. Et pour avoir du lait, il faut travailler, il faut élever ses vaches, et ainsi de suite. Et c'est exactement une très bonne image de ce qui s'est passé en arrivant au pays promis. Il fallait travailler. Et ça, pour ceux qui avaient prévu que tout serait simple, c'était pas la joie. Alors, j'ai eu une très bonne conversation il n'y a pas très longtemps avec Kevin. Ça arrive, vous savez. Il est sérieux parfois, hein, pas croire. Hein. Et on parlait de la notion de combat. C'est vrai qu'on parle souvent que dans la vie chrétienne, c'est un peu un combat, il y a de la bagarre, c'est pas simple, etc. Et après une longue discussion fort intéressante, on est arrivé à une conclusion très culinaire. C'était de présenter ça comme un sandwich. C'est-à-dire bien rappeler que Dieu nous assure la victoire parce qu'elle nous a été assurée en Jésus-Christ. Mais c'est sûr qu'il y a un combat permanent. Mais de l'autre côté du sandwich, merci Seigneur, on finira par la victoire. On s'assure la victoire avant, on combat pendant et après, on a la victoire. Et c'est un petit peu ce que je vais faire avec Déborah parce que malheureusement, on peut pas imaginer une vie, moi j'aimerais bien, uniquement sur des pétales de rose. Tout va bien. Ce serait bien. Mais voilà. C'est pas le cas. Et la génération qui va rentrer à Canaan, c'est la génération qui est sortie du désert. Tous ceux qui étaient incrédules sont morts dans le désert, les uns après les autres. Après 40 ans, la génération qui sort, c'est une génération qui est prête à affronter la bagarre. Et qui va vraiment être consciencieuse. Sous la conduite de Josué, alors vous vous souvenez, Jéricho, Haï, et puis ils sont montés. Alors là, les garçons, vous avez vos cartes. Et vous voyez un petit peu, vous avez les petits personnages avec les armes qui représentent tous les ennemis qu'ils avaient, et il n'y en avait pas qu'un peu. Je les accrocherai au mur s'il y a des gens qui les veulent. Curieusement, Josué, lui, ne va pas nommer son successeur. Donc, ils vont monter jusqu'au nord du pays. Ils vont plus ou moins réussir à gagner la victoire sur la plupart de leurs ennemis. Je dis bien la plupart. Mais Josué, lui, ne va pas nommer son successeur comme avait fait Moïse. Et c'est dommage. Parce qu'on va retrouver un peuple avec toutes sortes de responsables, des anciens, des chefs de tribus, etc., etc. Mais il va pas y avoir un leader pour l'ensemble du peuple. Et ça va être un des problèmes qu'ils vont rencontrer. Et puis, avant de mourir, et c'est là qu'on va commencer notre histoire, parce qu'on va pas pouvoir comprendre l'histoire de Déborah si on reprend pas à partir de la mort de Josué. Avant de mourir, Josué va convoquer tout le peuple et va leur faire deux grands discours qui sont longs, mais qu'on va quand même lire, parce que ça va nous replonger un peu dans l'esprit de l'époque et dans les difficultés de l'époque. Donc on va commencer Josué chapitre 23. Je vais faire des petits commentaires entre deux, parce que je pense que ça situe bien. Déborah, ça va être peut-être une centaine d'années après, mais c'est bien qu'on voit un peu ce qui s'est passé. Comment ils sont arrivés dans la terre promise, ils ont commencé la conquête, Josué va mourir. Il va falloir continuer et transmettre aux enfants. Bien des jours s'étaient écoulés depuis que le Seigneur avait accordé du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge, autour de 100 ans, parce qu'il est mort à 110 ans. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses secrétaires. Il leur dit, « Je suis vieux, avancé en âge. Vous avez vu tout ce que le Seigneur votre Dieu a fait à toutes ces nations à cause de vous. » Vous avez vu. C'est pas des racontars. C'est pas des contes de fées. C'est le Seigneur votre Dieu qui a combattu pour vous. Et ça, c'est un point essentiel. Dans nombre de batailles, ils n'ont pas eu à se battre. Bon, il y a eu des batailles où il a fallu se battre. Mais dans nombre de batailles, c'est Dieu qui leur a ouvert la voie. Alors, Jéricho, c'est l'exemple le plus connu, hein. Les murs se sont écroulés. Et il y a eu nombre de batailles où Dieu est intervenu. Et on va le revoir avec Déborah. Et malheureusement, souvent, ils ont perdu ça de vue. Et nous, faut pas qu'on le perde de vue. Ce n'est pas vous qui combattrez, c'est moi qui combattrai pour vous. D'autant plus que les Israéliens, les Hébreux de cette époque avaient un problème grave, technique. C'est que les Philistins, entre autres, les Cananéens en général, avaient un peu le monopole du fer. C'était l'âge de fer. Et les Hébreux en étaient encore au bronze. Le bronze étant un alliage de cuivre et d'étain. Et donc, c'est beaucoup moins solide et beaucoup moins fort que le fer et peut-être plus facile à travailler, mais beaucoup moins solide. Et ils avaient donc une infériorité à la guerre. Donc, c'est le Seigneur qui a combattu pour vous. Regardez, je vous ai attribué par le sort comme patrimoine, tribu par tribu. Alors là, vous avez vos cartes, les enfants. Tribu par tribu, ces nations qui restent à partir du Jourdain, et toutes les nations que j'ai retranchées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Le Seigneur, votre Dieu, les repoussera loin de vous, les dépossédera devant vous. Vous prendrez possession de leur pays, comme le Seigneur, votre Dieu, vous l'a dit. Alors, j'ai regardé un petit peu historiquement. Beaucoup de ces peuplades avaient été des envahisseurs qui venaient du nord et du nord-est. Donc, voilà, c'est pas des gens qui vivaient là depuis longtemps. Il y a eu beaucoup, c'était une période où il y a eu beaucoup d'invasions, et les Égyptiens contrôlaient une partie de la côte. Efforcez-vous vraiment d'observer et de mettre en pratique ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite ni à gauche. Et là, plus difficile, sans vous mêler à ces nations qui restent avec vous. Vous n'évoquerez pas le nom de leur Dieu. Vous n'avez même pas le droit de mentionner le nom de leur Dieu. Vous ne prêterez pas serment par lui. Vous ne les servirez pas et vous ne vous prosternerez pas devant eux. C'est seulement au Seigneur, Yahvé, votre Dieu, que vous vous attacherez, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Le Seigneur a dépossédé devant vous des nations grandes et fortes. Personne n'a pu tenir contre vous jusqu'à ce jour. Un seul d'entre vous en poursuivait mille, car c'est le Seigneur, votre Dieu, qui combattait bien pour vous, comme il vous l'avait dit. Et il revient toujours sur le fait, c'est pas vous qui combattez. À partir du moment où on pense que c'est nous, ça va plus. Prenez donc bien garde à vous-même et aimez le Seigneur, votre Dieu. Car si vous vous détournez, si vous vous attachez à ces nations qui restent avec vous, si vous vous alliez à elles par des mariages et si vous vous mêlez à elles, sachez bien que le Seigneur, votre Dieu, ne continuera pas à déposséder ces nations devant vous. Elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet pour vos flancs et des épines dans vos yeux. C'est dur comme image, hein? Jusqu'à ce que vous disparaissiez de cette bonne terre que le Seigneur, votre Dieu, vous a donnée. Alors c'est ça que j'aime bien dans la Bible, c'est ce réalisme. Parce que souvent dans les livres des différentes religions du monde, vous voyez les choses présentées, toutes dorées, toutes belles, le peuple choisi ou le peuple en question, il est formidable, etc. Et dans la Bible, vous avez toujours cette vérité. Ça marchera si vous obéissez à Dieu. Si vous obéissez pas à Dieu, vous allez au-devant de problèmes. C'est toujours très clair. Personne n'est déifié, personne n'est des héros extraordinaires, même les plus grands héros, on voit leurs failles. Et pour moi, c'est un signe d'authenticité. Je m'en vais aujourd'hui selon le sort commun à tous, vous le savez, de tout votre cœur, de toute votre âme. Aucune de toutes les bonnes paroles que le Seigneur votre Dieu a prononcées sur vous n'est restée sans effet. Toutes se sont réalisées sur vous. Aucune n'est restée sans effet. Oui, il se répète pour être sûr que ça soit compris. Comme toutes les bonnes paroles que le Seigneur votre Dieu vous avait dites se sont réalisées sur vous, de même, le Seigneur réalisera sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait détruit, qu'il vous ait fait disparaître de cette bonne terre que le Seigneur votre Dieu vous a donnée, si vous passez outre à l'alliance que le Seigneur Yahvé votre Dieu a instituée pour vous, si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, le Seigneur se mettra en colère contre vous et vous disparaîtrez bien vite du bon pays qu'il vous a donné. Alors c'est un chapitre important pour comprendre le livre des juges parce qu'il décrit bien la manière dont Israël doit servir son Dieu. Restez fidèle à l'alliance que Dieu a faite avec vous. Obéir en continuant la conquête du pays, déposséder les Cananéens et observer la loi de Moïse. Éviter toute relation avec les idoles, jusque dans les paroles et les serments, et toute relation avec les peuples idolâtres. Par contre, à l'inverse, si des gens de Canaan voulaient s'associer au peuple juif, la porte était ouverte. Ça ne paraît pas dans ce texte-là, mais dans beaucoup de textes, à beaucoup d'occasions. Faut jamais l'oublier, c'était une évidence pour eux. Je veux dire, la porte était ouverte. Ils n'étaient pas fermés aux gens qui voulaient reconnaître l'Éternel Dieu. Ils étaient d'ailleurs supposés être lumière des nations, donc attirer les gens vers l'Éternel Dieu. La conséquence, si vous abandonnez l'Éternel, il vous fera disparaître de ce bon pays. C'est-à-dire que la bénédiction qui vous est accordée, elle est conditionnelle. C'est important. Dieu ne les attend quand même pas au coin du bois avec un bâton. Parce que quand on lit ce texte, on a quand même l'impression d'un Dieu qui... Bon, alors maintenant, si vous êtes pas sage, vous allez voir ce que vous allez prendre. C'est pas ça, avec Dieu. Je le dis à chaque fois, mais je le répète parce que c'est important. Trop de gens ont une idée religieuse d'un Dieu qui vous attend avec un bâton dans le coin, là. Si tu te conduis pas bien, tu vas voir ce que tu vas prendre. Du coup, quand ils sont malades, quand ils ont un problème, ça y est, c'est Dieu qui me punit. Attention, c'est pas vrai. La chose est très simple, en fait, et là, ça se voyait très bien. En choisissant les dieux cananéens, qui sont des dieux dévoyés et extrêmement cruels, je vous rappelle que c'est des dieux qui demandaient des sacrifices humains et entre autres des bébés. Bébés premiers-nés, hein, on les jetait dans des brasiers au pied des statues de Baal. Ce n'étaient pas des gens mignons, hein, les Cananéens. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu était en colère après eux, parce que Dieu ne supportait pas cette sauvagerie, cette cruauté. Je vous rappelle que les sacrifices humains ont toujours dans la Bible été interdits. Jusqu'à le sacrifice d'Isaac qui n'a pas eu lieu. Parce que c'était quelque chose qui n'était pas dans l'esprit du Dieu d'Israël. Ce sont des dieux cruels. Et en adorant ces dieux cruels, vous savez, on devient ce qu'on adore. C'est logique. Vous adorez des dieux cruels, vous allez devenir cruels. Pourquoi les Cananéens étaient cruels? Ils adoraient des dieux cruels. Des dieux qu'ils s'étaient imaginés extrêmement cruels. Et puis, on adopte aussi les valeurs. Ces valeurs détruisaient les familles et détruisaient la nation. Ouais, les Cananéens, évidemment, la famille n'avait pas grande valeur, vu qu'ils pratiquaient la prostitution rituelle dans les temples. Ils n'avaient aucune valeur, ces gens-là. Ni valeur humaine, ni valeur morale. On dit souvent, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et c'était donc un danger pour les juifs, pour les peuples hébreux, d'imiter les nations qui les entouraient en adorant leur Dieu. Donc il faut comprendre ça. C'est-à-dire que s'ils se mettaient à adorer leur Dieu, ils perdaient leur valeur, ils perdaient leur vie, ils perdaient leur famille, ils perdaient leur unité nationale, et ils devenaient aussi dévoyés, aussi pervers et aussi cruels que les autres. Ils se punissaient eux-mêmes. Alors bien sûr, quand on lit le texte, on dit, bah oui, voilà, vous perdrez le pays, mais en fait, c'était quelque chose qui se faisait tout à fait naturellement. Et Dieu les prévenait. Si vous adorez les idoles, voilà ce qui va vous arriver. Mais c'est pas Dieu qui les attendait avec un bâton. Hein. Je vous le dis ça souvent. Hein. Si vous sortez sans parapluie sous la pluie battante, vous serez mouillé. C'est pas Dieu qui vous punit. Danger dans l'imitation des autres. Parfois, c'est l'imitation superficielle. Hein. J'en parle souvent avec mes élèves. Je leur dis, qui oserait venir à l'école avec des vêtements d'une autre mode ou d'une autre couleur que les couleurs reçues, c'est-à-dire le noir. Et c'est vrai, personne n'ose. Ça, c'est pas grave. Mais ça montre qu'on a peur d'être différent. Hein. Alors, au début, ils imitaient les fêtes, les rites, puis des rites ont passé au sacrifice d'enfants. À cette époque, on pensait aussi qu'un dieu était limité à une région. Oh, mais le Dieu d'Israël, il est limité au désert. Vous avez été 40 ans dans le désert, c'était le Dieu du désert. Mais maintenant, vous êtes en Canaan. Il faut adopter les dieux de Canaan. Et les dieux de Canaan, c'est Baal, c'est Astarté, c'est des fêtes extraordinaires, c'est des orgies extraordinaires. Allez, il faut s'adapter au Dieu du lieu. Vous, là, vous aviez le Dieu du désert. Mais là, maintenant, c'est autre chose. Et c'est important parce que ça les influençait quand même. Hein. On leur disait aussi, si tu veux des bonnes récoltes, il faut adorer les dieux du lieu. Hein. Et s'il n'y a pas de pluie, ce sera de votre faute. C'est parce que vous n'adorez pas les mêmes dieux que nous. Aïe. Les lois de Moïse aussi étaient très en avance par rapport aux lois des Cananéens. Moi, je suis quand même effarée de voir les lois d'hygiène de la Bible. Hein, si jamais on avait du sang sur les mains, etc., on était impur jusqu'au soir, il fallait se laver ses vêtements, etc. Dans certains cas, il fallait même brûler les vêtements, etc. Jusqu'à 1900 et des poussières, ça devait faire rigoler les gens. Hein, quand je pense, j'avais vu un excellent film sur Pasteur, et Pasteur, sa fille était sur le point d'accoucher, et le médecin arrive et laisse tomber ses instruments par terre, sur le tapis. Il les ramasse et il part travailler. Le pasteur dit non, pas question, tu vas faire bouillir tout ça avant de faire l'accouchement de ma fille. Et le gars s'est foutu dans une colère. C'était impensable. Vous voyez, en un peu plus de 100 ans, les choses ont changé. Hein. Les lois de Moïse étaient déjà dans cet esprit. Pourtant, ils ne savaient pas ce que c'était qu'un microbe. Mais Dieu leur avait demandé une hygiène extrêmement scrupuleuse par rapport à tous les liquides humains, par rapport à tout un tas de choses. Alors, il y a tous les détails, là, c'est casse-pied à lire, mais ça fait réfléchir. Les lois de Moïse, elles étaient casse-pied, oui, mais elles étaient protectrices. Et les gens qui les respectaient, ils avaient de fortes chances de ne pas attraper les maladies des autres. Ils avaient de fortes chances de ne pas avoir de problème d'épidémie s'ils étaient respectueux des lois de Moïse. C'est tout bête. Alors évidemment, quand vous les lisez, c'est casse-pied comme... Mais dans la pratique, quand on pense aux autres peuples, quand on pense à ce que nous-mêmes en France, on a vécu jusqu'au 19e siècle, combien d'épidémies auraient été évitées si les gens s'en étaient tenus à ces lois d'hygiène, je vous dis pas. Hein? Et donc les lois de Moïse, c'était pour vous dire, elles sont casse-pieds, oui, mais protectrices. Délaisser ces lois, c'était comme si on voulait plus respecter le code de la route. Imaginez, du jour au lendemain, vous prenez la route, le code, c'est fini, je suis libre. Bonjour au premier feu rouge, peut-être ça passera, le deuxième, troisième, je vous garantis rien. C'était ça, hein, délaisser les lois de Moïse. Donc il faut bien comprendre ça quand on lit ce texte. Sinon on a l'impression de quelque chose de très religieux, très pesant. Si tu obéis, si tu obéis pas, pauvre, t'es mort. C'est pas ça. C'est la notion de protection qui était rejetée. Tu veux pas obéir aux lois de Moïse, ben voilà, t'es plus protégé. Tu sors sans parapluie, tu seras mouillé. Hein? Gardez toujours ça à l'esprit, parce que l'idée d'un Dieu qui vous attend pour vous punir au coin du bois, c'est pas ça. C'est simplement vos décisions, nos façons d'agir qui font qu'on se fait du mal et qu'on se détruit. Et bien sûr. Sans le secours de Dieu, c'est évident, vous imaginez l'époque, ce sera la loi de la jungle, la loi du plus fort. Ces peuples violents et cruels auront forcément le dessus. Seul Dieu pouvait leur donner la victoire. Rester fidèle à Dieu, rejeter les idoles, c'était la condition du succès dans le pays que Dieu leur avait donné. Vous comprenez pourquoi? Même au niveau de l'hygiène, même au niveau de la vie courante et de toutes les valeurs. Maintenant, on va arriver au chapitre 24, qui est encore plus important. Là, Josué, il leur a donné certains principes. Maintenant, il va faire une alliance officielle. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges, ses secrétaires. Ils se tinrent debout devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Et il va leur refaire l'histoire du passé. Ce que je vous ai dit rapidement tout à l'heure. Vos pères, Terah, père d'Abraham, père de Nahor, habitaient autrefois de l'autre côté du fleuve. Ils servaient d'autres dieux. Très important. J'ai pris Abraham, votre père, de l'autre côté du fleuve, je lui ai fait parcourir tout Canaan, j'ai multiplié sa descendance, et je lui ai donné Isaac. J'ai donné à Isaac, Jacob et Ésaü, j'ai donné en possession à Ésaü la région montagneuse de Séir, mais Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. Voyez tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai envoyé Moïse à Aaron, j'ai frappé l'Égypte par les fléaux que j'ai produits en son sein, puis je vous ai fait sortir, j'ai fait sortir vos pères de l'Égypte, vous êtes arrivés à la mer, les Égyptiens ont poursuivi vos pères à la mer des joncs avec des chars et des attelages. Quand ils ont crié vers le Seigneur, il a mis des ténèbres entre vous et les Égyptiens, il a ramené sur eux la mer et elle les a recouverts. Vos yeux ont vu. J'aime bien ce verset. Il leur dit, vos yeux ont vu ce que j'ai fait contre l'Égypte. Vous avez habité longtemps dans le désert. Ils l'ont d'autant plus vu, c'est que partout où ils allaient, les gens leur en parlaient. Ah, c'est ce peuple qui est sorti d'Égypte. De façon miraculeuse. Je vous ai conduit au pays des Amorites qui habitaient en Transjordanie. Ils vous ont fait la guerre. Je vous les ai livrés. Vous avez pris possession de leur pays. Je les ai détruits devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, a fait la guerre à Israël. Il a fait appeler Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. C'est une bénédiction qu'il a prononcée sur vous. Et je vous ai délivré de sa main. Vous avez passé le Jourdain. Vous êtes arrivé à Jéricho. Les maîtres de Jéricho vous ont fait la guerre. Et là, il y a toute la liste. Je la passe, Amorites, Périsites, Cananéens, etc. Je vous les ai livrés et j'ai envoyé en avant de vous des frelons qui les ont chassés devant vous. Ce n'était ni par ton épée, oui, ah, les enfants, ce n'était ni par ton épée ni par ton arc. Je vous ai donné un pays pour lequel vous ne vous étiez pas fatigués, des villes et des oliviers, de vous nourrissiez sans les avoir plantés. Bénédiction gratuite de Dieu. Alors, ça c'est... Il revoit le passé. Et on peut se demander pourquoi Josué refait cette longue histoire qui se répétait depuis des générations, là, depuis qu'ils avaient quitté l'Égypte. Pourquoi? Et ça m'a trotté un peu dans la tête hier soir. Et puis, j'ai repensé à quelque chose. Quand on est un peu déprimé, ça vous arrive jamais, bien sûr, quand on est un peu fatigué, qu'on en a un peu marre et qu'on voit les choses un peu en noir, il y a un très bon remède. Un très très bon remède, c'est de se rappeler tout ce que Dieu a fait pour nous. Si on commence à regarder, aussi loin qu'on puisse remonter, tout ce que Dieu a fait, toutes les bonnes choses, alors là on voit les choses différemment. Vous faites ça pendant 10 minutes, un quart d'heure. Le mieux c'est de le faire à plusieurs, dans la famille, hein, de commencer à dire, tiens, ça me ferait du bien qu'on raconte un peu tout ce que Dieu a fait pour nous ces dernières années. Et vous allez voir l'effet produit. Wimber avait une petite anecdote là-dessus. Le Saint-Esprit en anglais, ça se dit Holy Ghost. Et il disait, c'est bien de se raconter des ghost stories, des histoires de fantômes dans le monde. Mais lui, il disait des Holy Ghost stories, l'histoire du Saint-Esprit. Et c'est vrai que ça fait du bien de se raconter les bonnes choses que tu as fait. Parce que parfois, on s'aperçoit, je me souviens, c'est Christelle, elle est pas là ce matin, mais Christelle qui, la première fois qu'on lui avait parlé du Seigneur, avait dit, mais alors, toutes ces années où moi, j'étais athée, toutes ces années, en fait, Dieu prenait soin de moi. Parce qu'elle a regardé en arrière, elle s'est dit, oh, j'ai évité ça, j'ai évité telle catastrophe, j'ai... Toutes ces années, et oui, Dieu prend soin de tous. C'est un des points d'ailleurs qu'on souligne à l'école quand on fait la culture biblique, c'est que souvent les dieux des différentes religions ne s'intéressent qu'aux gens de leur religion. Mais Dieu, l'éternel Dieu, s'occupe de tous les humains, quels qu'ils soient. Et il a son regard sur chacun. Donc ça fait du bien. Donc voilà pourquoi il commence par là. Avant de faire l'alliance, il rappelle les choses du passé. Alors quelqu'un a remarqué, alors là moi j'aurais pas pu le faire, mais les archéologues ont remarqué que ce texte suit exactement le modèle des alliances féodales traditionnelles de cette époque et de cette région. On en a retrouvé d'autres, je crois à Ougarit si je me souviens bien, qui suivent exactement le même plan. On rappelle les choses avant de conclure l'alliance. C'est en quelque sorte le renouvellement de l'alliance qu'ils avaient déjà fait au Sinaï avec Moïse. Quelque chose de très officiel. En fait, le texte ici, c'est un texte très officiel. Vous avez remarqué aussi l'insistance du « je » de Dieu. Ce n'était ni par ton épée, ni par ton arc, mais « je ». C'est pas toi, c'est « je ». Et quand on parle de combat, il faut toujours garder ça effectivement à l'esprit. Dieu combat pour nous. Dieu prend soin de nous. Dieu tient les choses en main. Même nos situations les plus tragiques, Dieu tient quand même les choses en main. Et la part de l'homme, c'est craignez Dieu, servez-le, supprimez les autres dieux de votre vie, servez le Seigneur. Alors voilà, on y arrive, verset 14. Maintenant, craignez le Seigneur et servez-le avec intégrité et loyauté. C'est important, hein. On ne sert pas comme ça juste en vitesse une fois par semaine. C'est avec intégrité et loyauté. Supprimez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire en Mésopotamie, et en Égypte. Servez le Seigneur. Mais s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, j'aime énormément ce verset. Si vraiment ça vous plaît pas de servir Dieu, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que vos pères servaient de l'autre côté du fleuve, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, je trouve que c'est un texte fantastique, parce qu'il est très clair. Si ça vous plaît pas de servir Dieu, si ça vous pose un problème, choisissez. Mais ne restez pas, comme dit un autre verset de la Bible, clocher des deux pieds. Voilà, c'est l'expression que je cherchais. Voilà. Alors, ça, c'est mauvais. Ça fait mal au dos aussi. Faut mieux prendre une décision claire. Si ça vous plaît pas, choisissez aujourd'hui. Alors c'est important parce qu'il propose deux autres alternatives. Si vous voulez pas servir le Seigneur, il y a les dieux de Mésopotamie, c'est-à-dire les dieux des racines. C'était les dieux que servaient les ancêtres d'Abraham. Vous savez, c'est eux qui construisaient ces merveilleuses. On les voit encore, jetez un petit coup d'œil sur Internet ou dans une encyclopédie, les ziggourats. Alors c'était des pyramides, mais au lieu d'être plates, c'est comme ça. Voilà. Il y en a encore qui sont debout, hein. Et ils adoraient, là, en haut des ziggourats, le dieu de la lune. Donc, si vous voulez, retournez à vos racines, retournez à vos ancêtres. Vous avez le choix, si ça vous dit, allez adorer la lune avec les autres, mais choisissez. Et puis, sinon, il y a les dieux des Amoréens. Alors, Amoréens ou Cananéens, c'est souvent mis l'un pour l'autre. C'est les dieux de l'environnement. Donc, ou vous retournez à vos racines, vous servez les dieux de vos ancêtres, ou bien vous servez les dieux de votre environnement. C'est-à-dire, on fait comme tout le monde, on s'associe, on se différencie pas, et on devient comme les dieux du pays. Et je vous ai dit qu'ils étaient pas très drôles. Et après, lui va donner son exemple. Moi, j'ai fait mon choix, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Il est catégorique, il donne un exemple de choix. Et je crois que c'est important aussi quand on est un peu découragé, comme je vous ai dit, on revoit les bonnes choses que Dieu a fait pour nous. On se rappelle qu'on a fait un choix, on se tient à son choix. Et puis on suit aussi l'exemple de ceux qui tiennent ferme dans leur choix. La Bible parle d'une nuée de témoins. Toute cette nuée de témoins. Vous savez, moi j'aime beaucoup regarder un peu la vie de gens remarquables des siècles passés. Il y a ceux de la Bible, mais il y a aussi ces gens qui n'étaient pas parfaits, certes, mais qui ont fait des choses extraordinaires. Et je me suis aperçue, en lisant de plus en plus de biographies, qu'on jouit aujourd'hui de beaucoup de choses qui ont été mises en place par des chrétiens convaincus. On l'a oublié maintenant, surtout qu'on est dans un pays laïque, faut pas le dire. Mais quand on regarde un peu, on dit « Ah tiens, c'était une chrétienne qui a fait arrêter le bagne. C'était des chrétiens qui ont lutté contre tel et tel problème social. C'est des chrétiens qui ont fondé la Croix Bleue, la Croix Rouge, du Nant. » Voilà. Et on remplit, enfin, maintenant, je crois que la Fédération protestante travaille à l'édition de tout un tas de livres de chrétiens qui ont fait des choses dont on bénéficie aujourd'hui, mais on ne sait pas que l'origine, c'était un chrétien convaincu qui s'est battu comme un lion pendant des années, l'abolition de l'esclavage en Angleterre. C'était un chrétien qui s'est battu toute sa vie. Et la loi a été votée, le nom, mais c'est pas Newton? Wilberforce. Merci. Député, alors les gens distribuaient des billets d'opéra le soir des débats. Billets d'opéra gratuits pour être sûr qu'il n'y ait pas de gens pour voter. Il a vraiment été confronté à des difficultés monstrueuses. Mais il s'est battu toute sa vie. Et il est mort une semaine après que c'était voté, je crois. Il a quand même vu le vote passer, interdiction de l'esclavage. C'était un chrétien engagé. Je sais pas, il n'a pas composé des cantiques aussi. Je sais pas, c'est pas le même. En tout cas, c'était un homme de Dieu qui a prié, qui priait avec des hommes de Dieu pour que cette loi arrive à passer. Il s'est battu toute sa vie. Et il a gagné ses adeptes, on peut dire, un par un, en discutant, en priant. Bon, évidemment, aujourd'hui, on dit, voilà, c'est beau, c'est laïque, la libération de l'esclavage, tu parles. Donc, c'est des gens qui sont battus dans la prière et qui ont vraiment gagné la victoire. Et c'est important de regarder à ces gens-là, ça fait du bien. Vous savez, quand vous lisez la vie de ces gens-là, ça fait du bien. Et se dire qu'aujourd'hui, on bénéficie de leur travail. Alors, on n'est pas des machines et on n'est pas des marionnettes. On a été créés à l'image de Dieu et nos choix ont des conséquences durables. Pour nous, pour notre famille et pour notre entourage. Alors, je veux pas être négative non plus, parce que je dirais, si je fais un mauvais choix, j'ai des conséquences durables pour toute ma famille, etc. Oui, c'est vrai. Mais vous savez qu'avec le Seigneur, quelque chose de formidable. Si jamais on a fait un mauvais choix, on peut se repentir, on peut demander pardon. Et Dieu peut même changer le mal en bien. Et ça, il y a des milliers de témoignages là-dessus. On a fait un mauvais choix pour un travail, pour un mariage, pour n'importe quoi. Si vraiment on se repent, on se met au pied du Seigneur, Dieu peut changer les choses. Même un mariage qui a été fait sur des mauvaises bases peut être reconstruit par le Seigneur. Bien sûr, aujourd'hui, on vous dit, vous changez de partenaire, 10 fois, 30 fois. Mais la Bible, elle dit autre chose. Si tu te repens, tu demandes pardon à Dieu, Dieu va reconstruire sur des bases nouvelles. Il est seul capable de changer nos cœurs, il est seul capable de changer les bases. Donc Dieu peut changer le mal en bien. Rappelez-vous Joseph, les mauvaises décisions de Jacob. Vous vous souvenez quand on avait fait Jacob? Il en avait fait un paquet, lui, de mauvaises décisions, hein. Mais Dieu a changé les choses. Il a amené Jacob à la repentance. Il s'est même battu avec Jacob. Et les choses ont changé. Enfin, Josué est inquiet devant la réponse un peu rapide du peuple, vous allez voir. Le peuple répondit, « Jamais nous n'abandonnerons le Seigneur pour servir d'autres dieux. Car le Seigneur Yahvé est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait monter d'Égypte de la maison des esclaves, nous et nos pères. C'est lui qui a produit sous nos yeux des grands signes et nous a sauvés tout au long de la route que nous avons suivie et face à tous les peuples parmi lesquels nous sommes passés. C'est le Seigneur, ils ont tout compris, hein, qui a chassé devant nous tous les peuples, les Amorites qui habitent ce pays. Nous aussi, nous servirons le Seigneur. C'est lui qui est notre Dieu. » Et au lieu, Josué, c'était un homme très intelligent. Et au lieu de se réjouir un peu trop vite, Josué dit au peuple, mais vous ne pourrez pas servir le Seigneur. C'est un Dieu saint. C'est un Dieu à la passion jalouse. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Alors là, je m'arrête parce qu'il faut quand même faire un petit commentaire. C'est un mot qui gêne les chrétiens souvent. Dieu est un Dieu jaloux. Oh, c'est pas beau d'être jaloux. On dit aux enfants, c'est pas beau d'être jaloux de ton frère, c'est pas beau d'être jaloux de ta sœur. Alors, j'ai assisté à un magnifique, j'aimerais beaucoup réinviter cette dame d'ailleurs, je crois que tu la connais, Charles, Madame Récoquet, qui avait fait un excellent exposé, c'est une psychologue, qui a fait un excellent exposé sur la jalousie. Et elle avait expliqué qu'il y avait deux choses, deux sortes de jalousie. Il y a la jalousie destructrice, qui devient une sorte de maladie obsessionnelle, et qui vous brise la vie, qui brise votre, enfin, qui casse votre regard, qui vous casse complètement, qui vous rend malade. Mais il y a la jalousie protectrice. Et celle de Dieu est une jalousie protectrice. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on adore Baal? Vous pensez bien, c'était évident. Il n'avait pas envie qu'on sacrifie ses enfants, qu'on les jette vivants dans un brasier au pied d'une statue. Non, mais enfin, réfléchissons un peu. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas envie qu'on adore Astarté, etc.? Parce qu'il savait bien que toutes ces orgies qui étaient rituelles et qui faisaient bien plaisir à tout le monde, à tous ceux qui participaient, allaient détruire leur vie, leur famille, etc. C'est une jalousie protectrice. Et Madame Récoquet nous expliquait que dans un couple, la jalousie protectrice est importante. Elle nous citait le cas d'un de ses collègues qui avait donné sa carte de crédit à sa femme, je crois, pour dire, bon, tu vas aller habiter chez un copain, et puis voilà ma carte de crédit, puis voilà. Il faisait confiance. Elle dit, bon, évidemment, ça s'est mal passé. Elle dit, quand il est revenu me voir, je lui dis, mais attends, la jalousie constructrice, protectrice, ça existe. Il faut en tenir compte. Ah oui, mais moi, justement, j'étais fière de pas être jalouse. Ben, voilà où ça t'a mené. Il y a une jalousie protectrice pour garder les choses solides, stables. Ça, j'ai fait une découverte ce jour-là, parce que c'est vrai que dans les milieux chrétiens, en plus, hein, c'est pas beau d'être jaloux. Et ben voilà. Donc Dieu est ce Dieu qui a cette jalousie protectrice pour ses enfants. Il veut le meilleur pour nous, et donc il nous prévient. Si tu vas adorer d'autres dieux, tu vas au casse-pipe. Et ça, je veux pas. C'est cette jalousie-là qui est la jalousie de Dieu. Vous comprenez bien. C'est sûr que si vous voyez votre enfant à côté d'un précipice, vous n'allez pas le laisser jouer au bord du précipice. C'est la même chose. Oui, je termine. Ok. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Alors là, c'est un verset qui choque. Quoi? Ah ben nous voilà bien partis si on a un Dieu qui pardonne pas nos transgressions et nos péchés. Ben oui, parce qu'il y a dans la Bible, vous savez bien qu'il y a un péché que Dieu ne peut pas pardonner, ce qui tracasse beaucoup les chrétiens parfois, mais c'est tout simple. Le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner, bah c'est quand on le refuse. Imaginez quelqu'un qui est en train de se noyer et vous essayez de le rattraper, il ne veut pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Hein, il faut au moins que la personne puisse tendre un petit peu la main ou voilà, si elle est au fond d'un trou, bon. C'est un peu l'image, même si elle n'est pas parfaite, hein. Dieu ne peut pas pardonner quelqu'un qui le refuse obstinément. Non, je ne veux pas toi, il est hors de question que tu sois dans ma vie. Je suis laïque. Je veux pas de Dieu dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Tant que la personne n'a pas changé, il peut rien faire. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui respecte notre liberté. Il est gentleman. Il respecte notre liberté. Je dis souvent aux enfants, mais madame, alors, c'est pas juste si, qu'est-ce qui se passera dans l'éternité? Je dis, moi, je sais pas, pour moi, c'est réglé, maintenant, vous, c'est votre choix. Et ça me regarde pas quelque part, c'est votre choix. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu respectera votre choix. Il respecte notre choix. Contrairement aux puissances du mal, qu'on appelle le diable, qui ne respectent pas les choix des gens, qui s'imposent, qui possèdent les gens, qui tiennent en main, qui en font des marionnettes. Dieu, lui, nous laisse totalement libres, même libres de le quitter. C'est beau d'ailleurs. C'est pour ça aussi qu'il passe du temps à prévenir. Lorsque vous abandonnerez le Seigneur et que vous vous servirez des dieux étrangers, il se retournera pour vous faire du mal et vous exterminera après vous avoir fait du bien. Là aussi, c'est une image, parce qu'en fait, c'est soi-même qu'on se fait du mal. C'est l'histoire de l'enfant qui est près du précipice. S'il tient absolument à faire l'essai de sauter dedans, il va se tuer. C'est pas vous qui le tuez, mais c'est évident. Saute pas dans le précipice! Tu vas te tuer, c'est un peu ce que Dieu dit, ça vous exterminera. Voilà. Donc, c'est important de bien comprendre ces images. Le peuple dit à Josué, non, nous servirons le Seigneur. Et Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi le Seigneur pour le servir. Ils répondirent, témoins. Et alors, je trouve que là, Josué, il était vraiment réaliste. Je m'attendais pas à ça, je me rappelais plus de ce petit verset. Il crie « Témoin !» tout fort. Et Josué répond « Eh bien, supprimez donc maintenant les dieux étrangers qui sont en votre sein. » Ah, comment il savait ça, lui ? Il se faisait plus d'illusions. Vous voulez vraiment suivre le Seigneur ? Ben déjà, commencez à supprimer les dieux étrangers qui sont encore là, dans vos bagages, dans vos tentes. Aïe, aïe, aïe. Parce que finalement, il clochait bien des deux pieds, hein, le peuple. Et inclinez votre cœur vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le peuple dit à Josué, c'est le Seigneur notre Dieu que nous servirons, c'est lui que nous écouterons. Et on va voir qu'en fait, dans les années qui vont suivre la mort de Josué, toute cette génération va rester fidèle à sa parole. Le problème va se poser pour la génération suivante, et c'est là qu'on abordera l'histoire de Déborah. Je pense que je vais arrêter là. Mais je pense que pour nous, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on ne peut pas servir le Seigneur avec nos forces. C'est un peu trop, hein, un Dieu saint, un Dieu parfait, mais lui nous aide. Et j'aime beaucoup ces versets qui disent « Malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme ». Parce que l'homme, il est faillible. Si je m'appuie sur l'homme, que ce soit quelqu'un d'autre ou que ce soit moi, malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'appui. Et je crois que même en servant Dieu, en voulant servir Dieu, on est un peu comme le peuple. Ouh, oui, témoin, témoin, on veut servir Dieu. Oui, j'ai choisi Dieu. Puis à la première occasion, aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il n'y a pas encore des idoles dans mes bagages? Est-ce qu'il n'y a pas encore des choses qui sont un peu, qui clochent des deux pieds? Et Josué dit, mais vous ne pourrez pas le servir si vous appuyez sur vos forces. Donc Seigneur, aide-nous à te servir. Aide-nous à nous débarrasser de tous ces petits Baals, ces petites Astartés qui traînent dans nos bagages. Et aide-nous à te servir, parce que franchement, par nous-mêmes, c'est pas simple, Seigneur, tu le sais. On est faillible, on est fragile. Et vous allez voir l'histoire des juges, c'est vraiment l'histoire de la fragilité humaine. C'est un livre que je n'aime pas dans la Bible. Parce qu'il y a un commentateur qui a dit quelque chose de très bizarre. Il a dit « La pornographie est l'art de rendre le péché séduisant. » Et le livre des juges a l'art de nous montrer le péché absolument dans toute son horreur. C'est pour ça que c'est pas très agréable à lire, les juges. Parce qu'on voit la faillibilité de l'homme, sa faiblesse, l'horreur quand il commence à adorer les idoles et à faire n'importe quoi de sa vie. C'est répugnant. Il y a des passages des juges vraiment démoralisants, répugnants. Parce que ça montre l'homme dans toute sa faiblesse. Mais d'un autre côté, ça montre aussi l'amour, la patience de Dieu qui pendant des années et des années, hein, le livre des juges, ça va durer à peu près 300 ans, va lever des hommes pour les libérer et les sauver. Va leur donner cette eau vive qui libère, dans ce qui est le thème pastoral de cette année. Il va enlever l'un après l'autre et il va même avoir l'audace de lever une femme. À cette époque-là, c'était pas mal. Une femme, juge, prophétesse. Et c'est des souffles d'air frais, c'est de l'eau vive qui vient dans ce livre qui est vraiment démoralisant. Dieu est puissant, Dieu est patient. Et même dans les pires situations, je pense que le livre des juges, c'est les pires situations qu'on peut imaginer. Dieu est toujours là et il intervient. Et je crois que c'est pareil dans nos vies et dans notre monde. Seigneur, merci pour ta patience, ta bonté. Et c'est vrai, Seigneur, que nous voulons te rester fidèles, mais on n'y arrivera pas par nos forces. Veuille nous aider, Seigneur, que vraiment tu viennes au secours de notre fragilité humaine et que nous puissions vraiment être à notre tour des Déborah pour les autres, des libérateurs, des gens qui apportent ta paix, qui apportent l'eau vive dans un monde qui se perd, dans un monde qui n'a plus de repères, dans un monde qui adore différentes choses et différents dieux. Seigneur, que nous soyons vraiment attachés à toi, et pas seulement le dimanche, mais dans toute notre vie de tous les jours. Amen.